Bonjour, voici 2000 tours à l'heure, votre journal sur cassette. Il est enregistré par le GIAA, Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, 5 avenue Daniel Le Sueur, Paris 7e, à l'usage des jeunes aveugles et amblyopes. Numéro spécial, été 1993. Le voleur de panda, PANDAS, par Alain Surget. SURGET. Édition Rageau, RAGEOT. Diffusion Attier, HATIER. 1990. Un des principaux personnages de cette histoire est un panda géant ou grand panda. PANDA. Tu as sûrement déjà entendu parler de cet animal qui ressemble à un ours ou même à un nounours blanc qui aurait les pattes, un large collier, des oreilles et des lunettes noires. Sa longueur est d'environ 1,50 m avec la queue et il pèse 75 à 150 kg quand il est adulte. Il se nourrit de bambou et vit en Chine centrale dans les montagnes. Le grand panda est un animal menacé. Il n'en existe plus que 400 environ et il ne se reproduit pas en captivité. Il est à la fois l'animal national de la Chine et le symbole du World Wide Fund for Nature, WWF, le Fonds mondial de la nature. Première cassette, première face. Chapitre 1er, Chongqing. C-H-O-N-G-Q-U-I-N-G. Cette fois, la mesure était à son comble. C'était le troisième jeune panda dérobé depuis que la cité de Chongqing, au centre de la Chine, s'enorgueillissait de posséder un zoo. Le voleur agissait de nuit, à la barbe des gardiens, et mille suppositions couraient à son sujet. Pour les uns, c'était un professionnel chargé d'approvisionner les zoos de Pékin ou de Shanghai, mais qui avait trouvé plus commode de s'emparer d'animaux déjà capturés plutôt que de s'aventurer dans les montagnes. Pour les autres, c'était un étranger, un long nez, le nom que les Chinois donnent aux Européens et aux Américains, qui travaillait pour Londres ou Chicago et qui faisait sortir les pandas de Chine par les ports de Hong Kong ou de Macao. Certaines mauvaises langues prétendaient même que c'était pour leur fourrure qu'on enlevait les animaux. La rumeur publique propagea la nouvelle jusque dans les hameaux les plus reculés, soulevant l'indignation des populations. Pourtant, en dépit des efforts de la police, aucun indice ne permit de conduire à une piste sérieuse. La disparition de leur animal national restait pour les Chinois un insondable mystère. Le ciel était gris cendre, chargé de poussière. Les immeubles et les hauts fourneaux paraissaient trembler dans une brume constante. Des fumées blanches, au lieu de monter droite, se cassaient au-dessus des usines et venaient engluer la ville. L'air sentait fort le charbon. Quand le vent soufflait du sud-est, il ramenait sur Chongqing une odeur d'œuf pourri provenant des installations chimiques établies le long du Yangtze-Kiang, Y-A-N-G, trait d'union TSE, trait d'union KIANG, le grand fleuve bleu qui n'avait de bleu que le nom. On était en pleine mousson d'été et pourtant il ne tombait qu'une espèce de crachin sans que l'on pût déterminer s'il s'agissait de gouttes d'eau ou d'éléments de pollution. La pluie, la vraie, restait accrochée aux nuages qui glissaient par-dessus les brouillards industriels sans arriver à les percer. La foule se pressait à l'entrée du zoo, patientait devant les guichets. C'était un serpent de parapluie étiré le long de la rue et qui ondoyait lentement, sans à-coups, pour finir par se déverser dans les allées en une sorte d'hydre à mille coups. Li Fong, L-I, trait d'union F-O-N-G, piétinait à côté de son père. Il était impatient de découvrir la fosse à panda, mais la queue devant la caisse durait une éternité. « Doucement, disait le père, elle ne va pas s'envoler, surtout qu'il n'y a plus grand-chose à voir maintenant. » Pourtant, rien n'aurait pu calmer la fièvre du garçon. Il craignait qu'on ne dirige les gens vers une autre partie du zoo, justement parce qu'il n'y avait rien à voir et qu'on pouvait en profiter pour entreprendre des travaux dans la fosse. Pour lui, rien ne devait être touché, parce que c'était la meilleure façon de rappeler l'ignominie du vol et de conserver intacte la colère sourde des habitants. Les gens étaient massés devant l'espace vide, silencieux. Ils osaient à peine respirer, regardaient l'endroit comme s'il était devenu une relique, un lieu sacré. Li Feng joua des coudes pour se retrouver au premier rang. Il resta de longues minutes devant le parapet, les bras croisés sur la pierre, à s'étourdir d'absence. L'eau paraissait figée en bas du mur comme un éclat de miroir. La butte et les rochers évoquaient un désert et l'arbre aux acrobaties, un misérable poteau. La vie s'en était allée avec les pandas et les fauves avaient beau rugir alentour, coincés dans 2 mètres carrés de cage, ils n'arrivaient pas à arracher la foule à ses pensées. C'était le symbole même de la Chine qui avait été dérobé. Son père entraîna Li Feng un peu plus loin, devant la fosse d'un énorme panda, le dernier du zoo. C'était un gros animal poussif, affalé contre le tronc d'un arbre et qui passait ses journées à manger et à se gratter le ventre. Ses manches et ses bottes noires, son manteau blanc et ses lunettes le faisaient ressembler à un ours en peluche. Pourquoi le voleur n'a-t-il pas pris le gros ? Demanda Li. Il est trop lourd, trop vieux. C'est un peu comme si, voulant montrer l'image de la Chine nouvelle, on ressortait les portraits du grand-père. L'homme voulut ajouter quelque chose lorsqu'il vit son fils repartir en courant vers la première fosse. Il prit son temps pour le rejoindre, lui-même attiré par l'endroit. Il y planait une sorte de mystère, et si personne ne parlait, tous cependant s'accordaient à imaginer le trajet du voleur et vibraient intérieurement de son audace inouïe. Indignation ou admiration, qu'importe, il fallait que ce fût un drôle de bonhomme. Lorsqu'ils quittèrent le zoo, un peu avant le soir, Li Feng ressentit une curieuse impression à retrouver le grand corps gris qu'était la ville. Il avait tant réfléchi, tant pensé à des stratégies de vol aussi délirantes qu'ingénieuses, que son rêve l'avait porté hors des sentiers du zoo, bien au-delà de la foule. Aussi, lorsqu'il retourna dans les rues, elles lui parurent s'être encore resserrées, l'étouffant entre les masses d'immeubles hérissées face à face. Il soupira. « Je me demande comment les tigres font pour vivre dans des cages aussi petites. » Le père ne répondit pas. Lui aussi songeait aux vies étroites à Chongqing. Le temps passa. 20 octobre. On en parlait depuis 2 jours. Il y avait un nouveau jeune panda au zoo. Il avait fallu du temps pour convaincre Shanghai de prêter l'animal afin de piéger le voleur, mais enfin Kim était là, l'appât aux grands yeux tristes. La presse contribua largement à répandre l'événement, se gardant bien toutefois d'expliquer la véritable raison de sa présence à Chongqing. Si la surveillance restait discrète dans la journée, elle se renforçait dès la fermeture du zoo, grâce à un dispositif de garde, de voitures et de projecteurs. Les premières nuits furent calmes, sans alerte, à peine troublées par les grognements des fauves. La vigilance s'effritait au fil des jours, et certains en vinrent à se demander si cela valait vraiment la peine de poursuivre l'affût. Vint alors une nuit sans vraie lune, une nuit à gros nuages, bien humide, présageant la mitraille de pluie. Une nuit comme celle qu'affectionnait tant le voleur. Chapitre 2e. Le voleur de nuit. L'agent Chang, C-H-A-N-G, remonta le col de son uniforme, enfonça sa casquette jusqu'aux yeux. Il se préparait à une longue nuit de veille. Un bruit sur sa gauche lui fit dresser l'oreille. Il recula dans l'ombre, la main sur sa torche électrique, l'autre sur son étui à revolver. Des pas approchaient, lourds. Le policier souffla de soulagement. Ce ne pouvait pas être le voleur pour se déplacer si pesamment. Il éclaira l'arrivant, reconnut l'uniforme des gardiens du zoo. J'apporte du thé chaud, murmura un petit homme. Merci, dit Chang. Le directeur a pitié de nous cette nuit. L'autre déboucha un thermos. Le policier remarqua ses mains noueuses lorsqu'il lui tendit le bol. Il s'étonna. Je croyais qu'on ne prenait que des hommes jeunes pour les factions de nuit. C'est vrai, mais ils sont tous postés à travers le zoo. On m'a demandé, Ming, M-I-N-G, tes jambes sont-elles capables de te porter d'un coin à l'autre du zoo? Les gardes et les policiers te seront gré de leur apporter de quoi se réchauffer. Alors me voilà. Chang but le thé brûlant à petites gorgées. Une panthère fit trembler les barreaux de sa cage en se frottant contre la grille. Un feulement, deux, trois cris d'oiseaux dans la nuit, stridents. Puis le silence. Les deux hommes regardèrent autour d'eux, découvrirent une ligne d'yeux dorés qui les observait. Les loups. Chang rendit le bol. Fais bonne garde, chuchota Ming.
Je risque pas de m'endormir avec toutes ces bêtes. Elles commencent à s'énerver à nous sentir près d'elles, dit Chang. De temps en temps, un lion me rugit dans les oreilles. Ouh, de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. J'ai beau me dire qu'ils sont enfermés.
Le petit homme demanda où était son collègue le plus proche pour lui apporter du thé.
Près des girafes. Il a de la chance, elles ne sont pas aussi bruyantes, elles. Il y a aussi trois agents dans une voiture à environ un li d'ici.
Un li, L-I, c'est une mesure chinoise équivalent à 576 mètres. Je les oublierai pas. Le policier le rappela au moment où l'autre allait repartir.
Marche dans l'ombre, conseilla-t-il, et ne fais pas claquer tes semelles sur le sol.
Ming répondit. Je préfère, au contraire. Sinon tes amis vont me prendre pour le voleur et me tirer dessus. Il s'éloigna en sautillant. Une heure passa, lente, déchirée de feulements, de raclements, de brusques accès de colère des animaux excités par la présence des hommes. Il pleuvait. Une pluie droite, lourde, tranchante, collant les habits à la peau, plaquant les policiers sous les arbres, sous les auvents des bâtiments. Certains avaient quitté leur poste pour aller se réfugier sous les portes cochères des remises. Ceux qui veillaient dans les voitures finissaient par ne plus rien voir au dehors, tant il y avait de buée sur leur pare-brise et sur les vitres. Chang, plus soucieux du devoir, demeurait stoïquement sous l'averse, le cou rentré dans les épaules, les mains dans les poches, laissant l'eau fouetter son visage, ruisseler sur sa casaque, tremper son pantalon et ses chaussures. Les tuiles résonnaient. Les gouttes rebondissaient sur le sol avec un bruit de cataracte, des torrents de boue traversaient les allées, bouillonnaient à l'entrée de soupiraux qui refoulaient l'eau sale des tuyaux engorgés.
Tiens, s'étonna Chang. Il venait d'apercevoir une silhouette abritée sous un parapluie qui passait dans la blancheur laiteuse d'un lampadaire. Le policier s'apprêtait à l'interpeller quand la vit lui adresser un signe, un geste qui traduisait toute la malchance d'être là de faction sous la pluie. Il pensa, ah, ça doit être Ming, qui rentre de ses tournées. Il se dit qu'il apprécierait volontiers une nouvelle rasade de thé chaud, mais lorsqu'il se décida à l'appeler, l'autre avait déjà disparu, fondu dans les trombes d'eau. Oh, tant pis.
Chang se mit à bâiller. Il avait froid, mal dans les jambes, et l'impression que ses pieds allaient faire éclater le cuir de ses chaussures, tellement elles lui semblaient avoir rétréci.
« Encore une nuit pour rien, » rumina-t-il entre ses dents. Le voleur a flairé le piège. Jamais il ne...
Le sifflet suraigu lui vrilla les tympans, jeta les bêtes contre les cages. Le zoo se réveilla d'un coup. Après une seconde de surprise, le policier se rua dans la direction de l'appel, cependant qu'éclataient de tous côtés les rugissements furieux, les plaillements affolés, le tonnerre des grilles frappées par les gorilles et les orangs-outans. Chang courait à perdre haleine, le cœur battant, son revolver dans une main, la torche électrique dans l'autre. Le sifflement se déplaçait, ponctué par des cris. « Ici, là-bas, bloquez-le !» Un bruit de moteur. Des phares percèrent l'obscurité de deux gros yeux éblouissants, balayèrent une portion de nuit avant de remonter l'allée vers la section des oiseaux. Des volières apparurent un bref instant dans les raies de lumière blanche, dévoilant les tourbillons d'ailes qui venaient se cogner contre les barreaux en proie à une effervescence panique.
La chasse a commencé, souffla Chang. L'autre n'ira pas loin avec la voiture aux trousses.
Le véhicule vira dans un crissement de pneus, l'arrière dérapa sur l'asphalte mouillé, heurta un muret en béton. L'auto repartit en sens inverse, avec un fracas de ferraille, son pare-brise décroché, tintinabulant derrière elle. Chang entendit se rapprocher les exclamations de ses collègues, perçut le bruit de leur course, vit leur silhouette bondir dans la lueur jaune d'un lampadaire. Il s'étonna pourtant de ne pas avoir remarqué le voleur s'enfuyant devant eux. Ça alors, mais qui poursuivent-ils ? La voiture le croisa, tourna à droite sans ralentir. Il fit aussitôt demi-tour, s'élança dans la même direction, sans savoir qui il trouverait devant lui. « Chang, Chang !» criaient les autres. « Attrape-le, attrape-le !»« Oui, mais quoi ? Qui ? Où est-il ? » Il ne put éviter une large flaque et s'éclaboussa jusqu'à la ceinture. Son pied glissa, il perdit l'équilibre. Emporté par son élan, le policier ne réussit pas à se redresser. Le corps plié en deux, porté en avant, les bras tendus pour essayer de s'accrocher au mur de nuit, il trébucha sur la pelouse, s'étala toute son long. La lampe lui échappa, roula sur l'herbe. L'homme maugréa, tourna la tête vers sa lampe électrique. C'est alors qu'il aperçut le panda dans le faisceau blanchâtre. Mais il comprit tout de suite. Le voleur avait été contraint d'abandonner sa victime pour s'enfuir. Il cria « Je m'occupe du panda ! Retrouvez le bonhomme !» Ses collègues faillirent lui repasser sur le corps, tout à leur fièvre de récupérer d'abord l'animal. Le panda se rejeta dans l'ombre et s'enfuit, effrayé par la foule gesticulante qui se précipitait vers lui. La voiture s'engagea à son tour sur la pelouse, la traversa à plein régime, labourant le sol gorgé d'eau, envoyant force jets de terre sur les policiers qui suivaient. Chang la vit soudain s'arrêter. Les agents le rejoignirent, l'entourèrent. Il hocha la tête, pestant. Ça y est, ils l'ont perdu. Quelques briques de discussion, puis une voix plus forte. « Je le vois !» Le cri agit comme une décharge. Policiers et gardiens foncèrent, le moteur rugit à nouveau, déployés en éventail, soutenus par l'automobile qui éclairait loin devant et cherchait à rabattre l'animal vers les hommes, ils finirent par l'acculer contre l'enceinte qui séparait le zoo de la rue. Quelqu'un dit, essoufflé, « J'ignorais que les pandas couraient si vite en zigzag. D'habitude, la peur les fait grimper plutôt aux arbres. » Nul ne prêta attention à sa remarque. « Et le voleur ?» s'en quitte un autre. Nul ne répondit. Le voleur, personne ne l'avait vu. De toute façon, ce n'était qu'un demi-échec, puisque le panda était récupéré. Le sergent qui dirigeait l'opération commanda de se refermer autour de l'animal. Celui-ci prit peur, s'élança droit devant lui. Un gardien sentit la bête lui frôler les jambes. Il pensa à les resserrer une seconde trop tard. Le panda était passé. « Oh non !» Chang plongea à ce moment. Il venait juste d'arriver comme le panda s'échappait du demi-cercle d'hommes. L'animal poussa un petit aboi aigu quand la main du policier lui agrippa le poil. Chang sursauta. « Quoi ?» Il coinça la bête sous son bras, approcha sa lampe électrique. « Mais c'est un chien !» C'était un chow-chow, C-H-O-W, trait d'union C-H-O-W. C'est une espèce de gros chien chinois, maquillé en panda, avec des bourres de laine blanche et noire accrochées à son pelage. Une imitation suffisante pour tromper la police en pleine nuit. Il y eut un instant de profonde consternation, un silence lourd de fatigue et de résignation. Pendant quelques secondes, les policiers ne sentirent même pas la pluie leur battre les os. Ils étaient comme abrutis, vidés, anéantis. Une voix jeta soudain, stridente, « Mais alors, le vrai, là-bas, personne ne le surveille !» Ce fut une belle pagaille, une course effrénée vers la fosse au panda. « Gardez le chien !» hurlait le sergent. Mais Chang n'avait pas besoin de son ordre pour comprendre que le Cho-Cho pouvait les aider à retrouver les voleurs si celui-ci était son maître. Ils atteignirent le rebord de la fosse, se bousculèrent pour regarder par-dessus, balayant l'espace de leurs rayons obliques. Rien. Alors ils sautèrent dedans au risque de se rompre les os, fouillèrent le recoin, la cage entre les rochers. L'un d'eux éclaira même l'arbre décharné pour voir si l'animal ne s'était pas réfugié à son sommet. En vain. Force leur fut de constater que Kim avait disparu. Ils étaient maintenant réunis dans la grande salle des papillons. Les policiers, les gardiens, les employés, qui de près ou de loin avaient participé à la surveillance. Flanqué du directeur du zoo, le chef de la police écoutait les rapports, confrontait les témoignages, cherchait l'indice qui le mettrait sur une voie. Il ressortit de l'interrogatoire que pas un d'entre eux, à aucun moment, n'avait aperçu le voleur. Seule la vue de l'animal, pris pour le panda hors de sa fosse, avait déclenché l'alerte.
Espérons que nos hommes dehors auront plus de succès. J'ai fait bloquer les rues et envoyer une équipe sur le port afin que notre individu ne puisse pas s'échapper par le fleuve. Pas une jonque, pas un sampan ne sortiront de la ville sans que je sache ce qu'ils transportent. Deux hommes en civil promènent le chocho au bout d'une laisse. Peut-être trouvons-nous la maison du voleur si le chien est à lui, à défaut sa rue, au pire son quartier.
En fait, le chef de la police avait très peu d'espoir de ce côté-là. Il se doutait bien que le voleur n'était pas naïf au point d'avoir utilisé son propre chien. Il eut un geste là et dit au directeur « Renvoyez vos gardiens, ça ne changera plus rien désormais. Vos hommes comme les miens ont besoin de se reposer et d'avaler quelque chose de chaud. »
La remarque fit tiquer Chang. Il pensa « Ming » s'écria-t-il, « Ming n'est pas parmi nous !»«
Mais qui est Ming ?» demanda le directeur.
« Le vieux qui apportait le thé, sur votre ordre. »«
Sur mon ordre, s'étonna le directeur. Je n'ai jamais rien commandé de pareil. Et puis je ne connais aucun Ming dans mon personnel. »
Il s'avéra, en recoupant toutes les déclarations, que le bonhomme avait surgi de nulle part, qu'il s'était fait passer auprès des policiers pour un employé du zoo et pour un homme de la brigade aux yeux des gardiens. D'où sortaient-ils ces uniformes? C'était un autre mystère. Porter son thé d'un coin à l'autre lui avait permis de relever l'emplacement exact de ceux qui surveillaient.
Le chef de la police se surprit à grommeler qu'il était heureux que la boisson ne fût pas droguée.
Lorsqu'on en vint à la description de l'homme, certains affirmèrent qu'il portait une barbiche, d'autres qu'il était imberbe, d'autres encore qu'il ne pouvait jurer de rien à cause de l'obscurité et de la pluie. Une chose fut pourtant clairement établie, Ming était bien le voleur de panda. Mais pourquoi ?
Chapitre 3. Les rues de Lune. Des jours avaient passé. Li Fong avait le nez collé à sa fenêtre. Il regardait la coulée de fonte au loin glisser comme une langue de lave derrière les maisons. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer les lueurs incandescentes qui soulevaient la nuit, la repoussaient au-delà de l'énorme sphère rouge englobant les hauts fourneaux et les aciéries. Parfois, des flammes démesurées bondissaient dans le noir, éclataient en panaches de poussière rousse qui retombaient comme les mille papillons de feu d'un soleil d'artifice. Li Fong soupira. Son père faisait partie de l'équipe de nuit qui travaillait dans les hauts fourneaux au débouchage du trou de coulée. Irait-il, lui aussi, plus tard, brûler sa vie à la fonte et à l'acier ? Il posa son front contre la vitre. Comme sa mère lui manquait dans ces moments, lorsqu'il se sentait seul, perdu, angoissé, dans un monde où l'unique avenir possible prenait l'aspect d'usines monstres crachant des étincelles, dressées au bout de la ville dans un alignement d'écailles embrumées de fumée.
Maman, murmura-t-il, maman.
Une bouffée de sanglots lui oppressa la poitrine quand il repensa à l'accident qui avait coûté la vie à sa mère 2 ans plus tôt dans une rue de Chongqing. Il finissait de pleuvoir. Les flaques brillaient telles des morceaux de lune. L'enfant suivait les coulures qui zigzaguaient sur les carreaux, s'arrêtait net, se gonflait en gouttes. Il posa son doigt sur une perle, par derrière la vitre, comme pour la retenir, l'empêcher de glisser plus bas. Son regard fila au-delà, plongea dans la rue, se fixa sur un petit homme qui avait bien du mal à porter une caisse sur son dos. L'individu faisait quelques pas, posait son fardeau 20 ou 30 secondes, le hissait à nouveau sur ses épaules, repartait, s'arrêtait plus loin. Intrigué, Li Fong s'attacha au manège du bonhomme. Alors que celui-ci entrait dans la lueur d'un lampadaire, la caisse glissa. Il essaya de la rétablir d'un mouvement d'épaule, mais elle lui échappa et tomba lourdement sur le sol. Elle s'ouvrit sous le choc.
« Oh !»
s'exclama l'enfant. Il lui avait semblé apercevoir un animal à l'intérieur. L'homme se hâta de replacer le couvercle, jeta des coups d'œil inquiets autour de lui, serra une corde autour de la caisse, la souleva, la coucha sur son dos. Il recula de 2 pas en perte d'équilibre, donna un coup de rein pour remonter la charge, reprit sa marche, lentement ployé en 2. Le cœur du garçon battait à tout rompre. Et si c'était le mystérieux, l'insaisissable voleur de pandas? Les journaux avaient parlé d'un petit homme et diffusé plusieurs portraits robots, avec et sans barbiche, avec et sans lunettes. On pouvait lui accorder tous les âges, selon le dessin sur lequel on se penchait, mais il ressortait des différents articles qu'il était plutôt vieux. La police avait reçu bon nombre d'appels et procédé à plusieurs interpellations, sans résultat. Pas plus que le blocage de Chongqing, ni la surveillance de son port. Quant au Chocho, au chien déguisé, il avait réussi à échapper à ses gardiens et était parti se mêler à une bande de chiens errants qui, la nuit venue, prenaient possession des rues de la cité. Où le voleur se tairait encore, où il avait déjà quitté la ville. Cependant, comme l'enquête s'enlisait, le chef de la police avait dû lever les barrages, ne pouvant concentrer plus longtemps tant d'hommes sur cette affaire. Avec son chômage, sa délinquance, Chongqing avait d'autres urgences, même si le vol des pandas était ressenti par beaucoup comme une atteinte à l'honneur de la Chine. Li Feng hésitait. Que faire? Qui prévenir? Donner l'alarme par la fenêtre? Le temps que les volets s'en trouvent, que les gens dégringolent dans la rue, l'autre aurait disparu. Et puis, s'il se trompait, si le bonhomme là-bas transportait autre chose? Il prit sa décision, descendit de chez lui, arriva sur le seuil comme la silhouette se fondait dans la nuit grise. Il se mit à courir, rasant les murs, se rangeant dans l'encoignure d'une porte quand il la distingua à nouveau. Il attendit alors qu'elle s'éloigna un peu, la suivit, s'arrêta une seconde fois, lui laissant toujours un temps d'avance afin de ne pas se faire repérer. L'homme connaissait bien la ville. Il évitait certaines rues, en empruntait d'autres, pas forcément les plus tortueuses ni les plus sombres, mais les plus désertes, assurément. L'enfant fut parfois obligé de patienter de longs moments, car son suspect, devant, marquait des haltes en se tenant caché, soit pour se reposer, soit dans l'attente que des troupes de jeunes se dispersent en faisant pétarader leurs motos ou que passe la patrouille de nuit. Il connaît les horaires de ronde et se méfie de tous, constata Li, en voyant les feux rouges d'une voiture de police tourner à l'angle d'une rue. C'est le voleur, j'en suis sûr. Il avait envie d'appeler à l'aide, car sa conviction maintenant était faite. Mais une nouvelle appréhension l'assaillait. Et s'il se mettait à crier, l'autre le découvrirait tout de suite et qui sait de quoi il était capable. Peut-être bien de lui trancher la gorge. Le mieux donc était de rester silencieux et de continuer à le suivre. Le petit homme repartit, entraînant Li sur ses pas. Une porte s'ouvrit tout à coup, jetant un rectangle de lumière jaune sur les pavés. Quelqu'un sortit dans la rue, passablement éméché, car il se retint aussitôt au mur. Le battant claqua dans son dos, coupant net une voix de femme en colère. Le voleur se plaqua dans l'ombre du bâtiment. Regardant derrière lui, il aperçut le garçon, qui n'eut pas d'autre solution que de continuer à avancer, la gorge serrée, tout flageolant. L'enfant le dépassa, le cœur battant, craignant à chaque seconde que l'homme ne l'attrapa par le bras et lui demanda comment il avait surgi derrière lui. Il n'en fit rien, mais Li Feng sentait qu'il le suivait du regard, le fouillait jusqu'à l'arbre. Il avait l'impression d'être épluché par derrière, comme si l'autre cherchait à déceler la cause de la peur qu'il percevait au fond de lui. C'est un vieux, mais il a l'air vraiment méchant. On aurait dit un tigre prêt à bondir quand je suis passé devant. Li Feng fut presque soulagé lorsque l'ivrogne se mit à lui parler. Il ne comprenait rien à son monologue haché, entrecoupé de bégaiements, de hoquets, mais cela le rassurait de répéter des « comment » qui prolongeaient la situation et clouaient le voleur sur son trottoir. Cela prit fin subitement quand la porte s'ouvrit à nouveau et qu'une voix criarde intima de se taire. L'ivrogne eut un geste vague, comme s'il chassait un nuage de mouches, bredouilla quelque chose et commença à marcher en s'appuyant aux façades. Li Feng tourna machinalement la tête, eut un sursaut de peur en découvrant le bonhomme et sa caisse juste dans son dos. Il s'était décidé à repartir, car il avait compris qu'il ne risquait rien. L'enfant surprit un éclair dans ses yeux au moment où le petit homme le dépassait. Fin de la première face de la première cassette, page 26. Le voleur de panda par Alain Surget.